La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message. J'ai entendu dire que l'on déplaçait les satellites hors d'usage dans l'espace. C'est quoi cette histoire ?
Au CNES, celui qui sait, c'est Bernard Cabrière, responsable de l'exploitation des satellites.
Allô ?
Allô Bernard ? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on fait au CNES de nos satellites usagers ?
Pour les satellites en orbite basse, c'est-à-dire pour les satellites qui sont en dessous de 2000 km, on considère qu'il faut que ces satellites ne restent pas plus de 25 ans dans cette zone-là avant de rentrer dans l'atmosphère et de brûler dans l'atmosphère. Pour les satellites en orbite géostationnaire, c'est-à-dire les satellites qui sont à 36 000 km, à ce moment-là, c'est absolument impossible de les faire redescendre. Donc on dit qu'il faut qu'ils aillent 200 km au-dessus de l'arc géostationnaire, qui est l'arc utile au-dessus de l'équateur pour les satellites de télévision ou pour les satellites de télécommunication, hein, et qu'ils y restent au minimum 100 ans au-dessus de l'arc géostationnaire.
Mais alors, quand décide-t-on de désorbiter un satellite ?
Plusieurs raisons à cette décision. Tout d'abord, lorsque les instruments ne fonctionnent plus, parce qu'ils ont tombé en panne par exemple, dont le satellite n'est plus utile pour ses utilisateurs, ou bien parce qu'on considère que la moisson de données qui a été réalisée par ce satellite est suffisante. Une troisième raison, ça peut être que du côté de la plateforme, c'est-à-dire la partie du véhicule qui permet de guider, de diriger le satellite dans l'espace, soit est partiellement en panne, soit pour lequel on considère qu'il y a un risque de panne tel qu'on préfère anticiper la panne définitive et donc décider la fin de vie. Et enfin, lorsqu'il n'y a plus suffisamment de carburant, qu'on considère qu'il faut utiliser ce carburant pour faire des opérations de fin de vie.
Et quelles sont les grandes étapes de la désorbitation ?
C'est d'une part aller sur une orbite finale, ce qu'on appelle une orbite cimetière, une orbite de fin de vie. Deuxième partie, c'est faire la passivation fluidique du véhicule, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de carburant, de liquide qui pourrait exploser après la fin de vie. Et troisième thème, c'est la passivation électrique, c'est-à-dire faire en sorte que la batterie, le panneau solaire, mais tout ce qui peut générer de la puissance électrique soit coupé. Toujours pareil pour éviter ensuite des phénomènes d'explosion qui pourraient générer des débris.
Quelle est la toute dernière désorbitation effectuée depuis le CNES à Toulouse ?
Le dernier satellite pour lequel le CNES a procédé aux opérations de retrait de service, il s'appelait Déméter. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour ce satellite ? Ce satellite était relativement bas, donc on a fait les deux autres types d'opérations. On a continué à vider le réservoir jusqu'à atteindre le vidage complet du réservoir. On a fait ensuite la partie passivation électrique. Donc pour Déméter, on a orienté d'abord le panneau solaire en direction opposée du soleil, hein, ce qui est quelque chose de pas naturel du tout. Et en plus, on a allumé tous les systèmes électriques qu'on pouvait, du type réchauffeur, de façon à ce que le vidage de la batterie se fasse le plus rapidement possible. On a aussi chargé un nouveau logiciel de vol, un logiciel de vol qui ne fait rien, c'est-à-dire que toutes les commandes du logiciel de vol sont des commandes vides, de façon à ce que si jamais la batterie se rechargeait, bien le logiciel de vol en démarrant ne provoque pas le réallumage d'autres équipements. Voilà, donc tout ça a été fait, et c'est ce qui nous a permis de décréter ben, que le satellite Déméter avait fait son retrait de service complètement au mois de février de cette année.
Merci Bernard Cabrière.
Ah merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens. Coiffe. 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 Même si les lancements spatiaux ne sont pas un concours d'élégance, jamais vous ne verrez Ariane partir sans sa coiffe. N'y voyez surtout pas un excès de coquetterie. Cette extrémité pointue située au sommet des lanceurs n'a rien d'un accessoire de mode. C'est au contraire une pièce essentielle au bon déroulement du vol. Son rôle lors d'un lancement consiste littéralement à fendre l'air. Grâce à sa forme effilée, la coiffe ouvre le chemin au reste du lanceur pendant toute la traversée de l'atmosphère, limitant les turbulences aérodynamiques le long de sa structure. Mais si la coiffe a une forme d'obus à l'extérieur, c'est un véritable nid douillet à l'intérieur. Ses parois sont en effet tapissées de revêtements spéciaux qui, au moment du décollage, atténuent bruit et vibrations, préservant les satellites des chocs les plus violents. 3 minutes à peine après le décollage, à une altitude de 110 km, Ariane a déjà quitté l'atmosphère. Comme le papillon sur le point de voler de ses propres ailes, il est temps pour les satellites de quitter ce doux cocon. La coiffe s'ouvre alors en 2 parties qui s'écartent du lanceur avec une symétrie parfaite, telles 2 blanches colombes battant délicatement des ailes. À ce moment précis, Ariane est certes décoiffée, mais brusquement allégée de 3 tonnes, la performance y gagne ce que l'élégance y perd. Chapeau bas, mademoiselle.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Les clés d'un succès annoncé. Les gens de l'espace, échaudés par quelques cuisantes mésaventures, n'aiment pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils se refusent à célébrer l'accomplissement d'une mission, la réussite d'un lancement, avant que l'ultime étape ne soit effectivement franchie et l'excellence des résultats confirmée. Pourtant, l'événement qui a eu lieu le 7 mai dernier au Centre spatial guyanais peut d'ores et déjà être considéré comme un vrai succès. Pour marquer la fin du chantier du nouvel ensemble de lancement Soyouz, chantier mené sous la maîtrise d'œuvre du CNES, des clés ont été symboliquement remises par l'Agence spatiale française à son homologue européen, pour être ensuite confiées à Arianespace. Des clés qui, à la fin du prochain été, ouvriront le ciel guyanais à la plus célèbre des fusées imaginées du temps de l'Union soviétique, la fameuse Soyouz, qui, au milieu des années 1960, alors que les premières Soyouz quittaient la base de Baïkonour, auraient osé imaginer que leurs héritières partiraient un jour d'un département français, et donc du sol européen, en plein continent sud-américain. Les clés transmises ne sont pas seulement celles d'un complexe spatial. Avec elles, un chapitre de notre histoire semble bel et bien s'achever, se refermer, celui de la guerre froide. Ces clés sont aussi celles d'un songe, celui que le général de Gaulle a osé exprimer à voix haute lorsque le 15 juin 1966, il annonçait à ses ministres « Nous allons en Russie, nous irons à Novossibirsk, la ville scientifique, à Baïkonour, la base spatiale, grand mystère. » Ce voyage a durablement marqué les liens entre nos deux pays, au point que les Russes peuvent aujourd'hui dire à leur tour « Nous irons en Guyane, à Sinnamary, y lancer Soyouz ». Soyouz, un nom prédestiné puisque, en russe, il signifie « union ». Et quoi de plus efficace pour sceller une union que d'user d'une clé ? Ne nous méprenons pas. Ces clés sont encore le signe d'un pouvoir, celui d'accéder à l'espace et donc de consolider une maîtrise du monde. Clément Ader, le pionnier de l'aviation, en avait déjà pleinement conscience lorsqu'il affirmait « Qui sera le maître du ciel sera le maître du monde. » Soyouz n'est-il pas attendu en Guyane pour conforter la place occupée par Arianespace sur le marché des lanceurs ? Toutefois, les enjeux économiques ne doivent pas empêcher de laisser à l'espace le soin de rejoindre les cœurs et d'en offrir, là encore, des clés. Ce même 7 mai, la pierre dite de Gagarine, amenée de Russie dès février 2007, au moment de l'ouverture du chantier, cette pierre a été scellée en cette année commémorative du vol historique du cosmonaute soviétique. Le premier homme à être allé dans l'espace, qu'il porte une colombe ou arbore son extraordinaire sourire, n'incarne-t-il pas l'une des plus belles missions que l'humanité puisse confier à ses fusées ? Celle d'être les clés capables de lui ouvrir l'immense territoire du cosmos, bien entendu, mais surtout le domaine plus immense encore d'une humanité plus solidaire, plus unie, plus responsable d'elle-même et de sa planète.
La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le
Daniel
terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
oui,
tout.
Non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui. Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Ce serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.